Méditation pour le bien commun. Taureau 93, fête du Vézac. La fête du Vézac nous révèle le moment d'intensité des forces d'illumination. Les forces d'illumination. Et nous citons un extrait du retour du Christ à propos de ces forces d'illumination. Je cite. Les forces de l'illumination émanent du cœur de Dieu et sont reliées à la compréhension divine. Elles peuvent par conséquent atteindre et fortifier tous ceux qui aiment et servent leurs frères. Cette énergie est celle du second aspect, le principe de la divinité, l'amour-sagesse, dont le Bouddha et le Christ sont les deux suprêmes expressions divines. C'est principalement à travers eux et leurs disciples, ou à travers les maîtres qui suivent la même ligne d'expression divine, que ces énergies, canalisées par le nouveau groupe des serviteurs du monde, atteignent l'humanité. Fin de citation. Maintenant, notre texte d'introduction à la méditation. L'occultiste est un être qui cherche à connaître, comprendre et intégrer les vérités de la vie qui ne sont ni tangibles pour la science concrète, ni visibles à l'œil de la terre. C'est un être qui n'aime pas les mystères et qui ne fait pas de mystère. Au contraire, il cherche à dépouiller les prétendus mystères, les grands, ceux qui dépassent l'homme, et les petits, ceux qui sont fabriqués par l'homme, de leur flou inquiétant, impressionnant ou délibérément mensonger. En cela et pour cela, l'occultiste ne peut qu'être simple, vrai, limpide. Alors, il est un agent des forces de l'illumination. Des idées fausses entretenues depuis des âges ont attribué le terme occultiste à des marchands d'illusions, à la gorge gonflée de mensonges et qui règnent aisément sur des ignorants qui n'ont pas le courage ou encore la capacité de chercher par eux-mêmes la vérité derrière les apparences ou les on-dit. Ce courage peut aussi s'appeler discernement. Nous voyons que le signe du taureau comporte toutes ces significations. Dans le concret, il gouverne la gorge, qui peut si aisément s'enfler quand l'homme est prisonnier de son désir de dominer les autres en fabriquant des mirages impressionnants ou alléchants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, une vague de grosses têtes déferle sur notre monde pour détourner, consciemment ou inconsciemment, de leur direction évolutive, ceux qui ignorent encore les principes du chemin. Mais pour celui qui, un jour, même le plus petit des ignorants, décide que la vérité nue est tellement plus belle et désirable que n'importe quel pieux mensonge, même le plus flatteur ou le plus joli, pour celui-là, il se passe le merveilleux et libérateur transfert de la conscience dans l'autre dimension, la dimension de la vraie vie. La vie, la seule, l'unique. Ce goût de la vérité, cette affirmation de la volonté de vérité suffisent à ouvrir son œil, l'œil de l'âme, celui qui peu à peu lui révèle un paysage que ses deux yeux de terre ne lui montrent jamais. Il découvre alors sa vraie grandeur, celle qui ne lui gonfle pas la tête, mais élargit son cœur et sa conscience. Émerveillé, l'homme voit son appartenance vivante à Dieu et il sent son unité en Dieu, en ce tout étonnant, en cet universel infini. Il retrouve sa filiation divine, comme on dit. Et ceci devient jour après jour plus tangible et visible pour lui que ne peuvent plus jamais l'être son corps de chair ou la chair de la terre même, utiles et nécessaires certes, mais si périssables et seulement transitoires. Comme un panorama à la fois grandiose et simple, parce que sobre et vrai, la vision se déroule. Il voit les liens vitaux entre le tout et lui, le minuscule, et il s'émerveille de cette étonnante machine, oui, minuscule, qui est sa personne humaine. Son œil d'âme est le petit téléviseur portable de l'œil de Dieu, l'étoile nommée Aldébaran par les sages et qui trône dans le taureau. Car ainsi qu'il a été dit depuis le commencement, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Depuis cet œil cosmique, les forces d'illumination déferlent à flot jusque sur la terre, grâce à l'homme qui le veut bien, celui qui accepte son rôle et sa vraie dimension. Dieu lui a donné les trois croix à connaître, vivre, intégrer, habiter. Et c'est en se posant sur la croix fixe, la médiane, que l'homme commence enfin à voir clair. C'est justement la croix de l'âme, celle du Fils divin, celle qui appelle au grand sacrifice. Ce sacrifice qui est non pas mourir, mais vivre enfin d'un souffle nouveau, du vrai souffle, du souffle de Dieu. Celui qui, à Shambhala, est nommé le grand sacrifice parce qu'il est le régent de notre planète, l'homme cosmique qui nous rassemble tous en lui pour nous lier au Père, nous enseigne aujourd'hui, en cette fête de Vesak, ce qu'est le sacrifice. Depuis le temps de la grande révolte des illusionnistes cosmiques, Satan et sa clique, lui demeure en son haut lieu, veillant sur la planète Terre et ses problèmes et sur les hommes de bonne volonté. Ceux-là, justement, oui, qui se donnent en sacrifice, oublieux d'eux-mêmes, refusant mystères et fantasmagories, pour tenter de toutes leurs forces vives de restituer à l'homme, à la Terre, aux animaux, à tous, leur dignité divine. Le sacrifice, en somme, celui que Dieu aime et perpétue, auquel il nous invite, est chose toute simple. Renoncer aux mensonges, renoncer au nombrilisme, jeter bas d'un vigoureux coup de pied les châteaux de cartes des illusionnistes de tout genre, et s'aligner droit, debout, bras tendus, courageuse et fidèle dans l'esprit de vérité. La vérité, c'est tout ce qui existe. Connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, a dit celui-là même qui était chargé de nous l'insuffler, cet esprit de vérité. En ce temps de Vesak, où l'alignement cosmique du Seigneur du monde dans les forces d'illumination donne à chacun le pouvoir de faire fonctionner le diapason qu'il est, voyons seulement un des aspects de la réalité qui a cours actuellement sur notre planète en souffrance. Regardons avec quel amour et quelle gratitude cet homme, fils de Dieu, qui peu à peu se redresse comme un seul, entraînant tout avec lui. Debout, comme cela est voulu, sur sa planète, son terrain, pour que la vie de Dieu de part en part le traverse et régénère toute chose qu'elle touche. C'est l'homme lui-même qui est la croix fixe, l'intermédiaire sacré entre les puissances du ciel et les forces de la terre, entre cardinal et mutable, entre Dieu et le minuscule bipède qui rampe encore quelque part. Et chaque fois que l'un de nous se dresse ainsi, avec courage, pour prendre sa croix et le suivre dans la vérité, la simplicité, la loyauté, c'est tout l'homme de la terre comme un seul qui progresse d'un cran. Chaque croix rose des serviteurs de la lumière touche de sa radiation rédemptrice celle des frères. C'est alors une aura puissante et sans cesse croissant en intensité qui sacrifie la terre peu à peu et de façon irréversible.